Salut, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler des pervers narcissiques et de personnes toxiques et de relations toxiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est plus qu'essentiel de parler également de qu'est-ce qu'on appelle les pervers narcissiques aujourd'hui en psychiatrie. Cette notion case de pervers narcissique n'a pas d'existence dans la nosographie psychiatrique, c'est-à-dire l'endroit où on référence toutes les maladies. Donc, ce n'est pas reconnu comme quelque chose qui existe de la part des psychiatres qui émettent au contraire beaucoup de réserves. L'expression pervers narcissique a été proposée en 1986 par un psychiatre, justement, Paul-Claude Racamier. Cette notion sera ensuite reprise et utilisée par des psychiatres tels que Marie-France Irigoyen ou Alberto Egué qui vont décrire la souffrance des victimes qui fréquentent ce type de personnalité. Pourtant, l'expression elle-même pervers narcissique est complètement discutable, ne serait-ce que par le sens pervers narcissique, puisque tout pervers a déjà un problème de narcissisme extrême. Du coup, ça fait un petit peu redondance, un petit peu pléonasme. Ce qui fait que pervers narcissique, ça devient une espèce de diagnostic très réducteur, en fait, très schématique. Ça peut empêcher de voir d'autres problèmes, d'autres troubles que possède la personne, tels que de la paranoïa ou des états limites. Ou simplement, dans le cas d'une relation entre deux personnes, que ce soit de la famille, un couple, etc., plus simplement une relation malade qui demanderait justement peut-être une analyse beaucoup plus subtile de la part d'un professionnel, d'un psychiatre par exemple. Cette introduction un petit peu longue sur la controverse de l'utilisation de ce mot était importante pour la suite de cette vidéo. Je vais utiliser le terme pervers narcissique ou le raccourci PN tout le long de la vidéo. Mais soyons bien clairs, il ne s'agit pas d'un diagnostic, puisqu'on le sait, ça n'existe pas en psychiatrie en tant que tel. Ça n'a pas tellement plus de valeur que de dire les personnes sympas ou les personnes pas sympas. Dans le cadre de cette vidéo, le terme pervers narcissique ou PN veut dire, pour moi et pour le cadre de cette vidéo, donc non pas un diagnostic, mais une typologie de personnes ayant un moi plutôt lacunaire, plutôt narcissique, avec un mécanisme de fonctionnement qui consiste à dévaloriser l'autre pour nourrir son côté narcissique. Voilà ce que ça voudra dire pour cette vidéo. C'est de ce genre de personnes toxiques dont je parle ici. On y reviendra d'ailleurs dans la vidéo de comment ça se fait qu'on voit des pervers narcissiques partout. C'est l'une des parties de cette vidéo. On y reviendra. Est-ce qu'il faut aider ce genre de personnes? Si oui, comment? On y reviendra également. Merci beaucoup de vous intéresser à cette vidéo qui, j'espère, sera utile aux personnes qui la regarderont. Et n'oubliez pas d'une manière générale d'émettre les plus grosses réserves quant à l'utilisation, à ce que veut dire le terme pervers narcissique ou PN. Salut, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet que je pensais avoir déjà traité sur la chaîne depuis 2016, et en réalité non, c'est celui des pervers narcissiques. Alors, on dit pervers narcissique, on pourrait dire personne atteinte de troubles de la personnalité, sociopathe, ou plus généralement les personnes toxiques, mais toxiques réellement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont atteintes d'une ou deux pathologies. Tout d'abord, une pathologie narcissique, ce sont des personnes qui se trouvent grandioses, qui se trouvent importantes elles-mêmes. Et une pathologie perverse, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont sadiques, qui vont prendre du plaisir dans le fait de faire du mal aux autres. Pourquoi faire une vidéo sur le sujet ? Parce que je crois que plus que jamais, c'est important d'en parler, c'est important pour les personnes qui en sont victimes et qui ne s'en rendent pas encore compte précisément, et ça on va y revenir, pour les personnes qui en ont été victimes, et c'est important aussi de dire, bah oui, ces personnalités-là, elles existent. Statistiquement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui sont manipulateurs pervers, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui existent dans ce domaine-là, mais c'est souvent les hommes, et c'est pourquoi je vais conjuguer toute cette vidéo au masculin. Mais on pourrait très bien genrer au féminin de la même manière, je le fais par simplicité. Enfin, par simplicité, et puis encore une fois, parce que statistiquement, c'est plus souvent le cas des hommes. De la même manière, je vais souvent en parler de couple, parce que pour qu'il y ait un pervers narcissique, il faut qu'il y ait une victime en face, pour qu'il puisse œuvrer. Donc, je parle du couple pervers narcissique, victime, pas forcément du couple amoureux. Ça peut être aussi familial, ça peut être une mère avec son enfant, ça peut être un patron avec son employé, ça peut se retrouver dans plein de schémas. Et puis, c'est important d'en parler aussi si vous, dans votre entourage, vous pensez que quelqu'un est victime d'un manipulateur pervers. La vidéo elle va se découper sur la difficulté de repérer un pervers narcissique, sur les différences qu'il y a entre un pervers narcissique et d'autres comportements, ou d'autres types de personnalités, sur la stratégie du pervers narcissique également. Et on va se centrer évidemment sur la victime, sur les effets que ça a sur la victime, sur la grande question, est-ce qu'il faut aider ou pas un pervers narcissique, sur les solutions pour s'en sortir, et on terminera en parlant de ce qui va se passer également quand le pervers narcissique n'aura plus d'emprise sur la victime. Qu'est-ce qui va lui faire subir en rebond, et ça c'est très important également. Loïc, générique. Donc, un pervers narcissique, qu'on appelle aussi parfois un PN. Alors, On pense qu'il y en a partout, que c'est le mal de la génération. C'est pas aussi fréquent que ce qu'on pense. Bien souvent, on accole l'étiquette pervers narcissique à des personnes qui n'en sont pas vraiment, mais c'est quand même 3% de la population en moyenne. 3 personnes sur 100, c'est quand même pas rien, sachant qu'en plus, statistiquement, un pervers narcissique va faire au moins 3 vraies victimes au cours de sa vie, donc ça démultiplie un petit peu ce chiffre. Ce sont des personnes qui ont conscience qu'ils font du mal, mais qui ne le ressentent pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils ressentent qu'ils font du mal, mais pour eux, c'est pas très clair que cette émotion-là... En fait, c'est pas très clair que le mal, ce soit du mal. Ils vont au contraire s'amuser et trouver une forme de jouissance dans la souffrance de la victime ou des victimes. Une grande interrogation, c'est pourquoi ils font ça. À part le plaisir, la jouissance qu'ils peuvent retirer à faire du mal à quelqu'un, il y a une explication qui est en psychologie assez admise, c'est le fait que ces personnes-là sont au bord de la folie. Et tout ce système qu'elles mettent en place avec les victimes, elles le font pour pas décompenser elles-mêmes. La décompensation, on appelle ça aussi l'effondrement psychologique. Ça correspond à la phase de rupture psychologique d'une personne. Alors l'idée, même si elle n'est pas consciente, c'est de rendre l'autre fou à sa propre place. C'est-à-dire que en victimisant une personne et en allant au bout du processus, ben, ils se disent « voilà, ça c'est quelqu'un de fou, moi je suis pas fou hein. ». Et puis en plus, tout ça c'est de ta faute à toi, du coup c'est jamais de ma faute à moi. C'est à peu près les bases du fondement du comportement d'un pervers narcissique. Ils sont très difficiles à repérer en apparence en premier lieu. Alors on pourrait aussi les appeler les prédateurs moraux. En général, ils ont une vie sociale très épanouie. Et c'est des personnes qui passent très bien socialement, qui ont même tendance à briller, à capter l'attention. Ils ont souvent un charisme, alors c'est pas forcément physique, c'est la manière d'être. Ils savent être en fait en société. Ils sont socialement très adaptés, ils sont très intelligents et ils sont très stratèges. Ils ont souvent un sens de l'élocution, donc on les écoute assez facilement. Et c'est comme ça d'ailleurs que tout commence avec les pervers narcissiques. C'est parce que d'une part, tout le monde les aime, donc personne ne va remettre en question ce qu'ils vont dire. Et d'autre part, ils peuvent capter une victime plus facilement parce qu'ils sont un petit peu fascinants. Pourtant, dans les premiers points de repère qu'on pourrait avoir, c'est que ce sont des personnes un peu au discours monolithique, c'est-à-dire d'un seul bloc. Ils connaissent qu'une seule chose. Et encore, ce serait monolithique creux parce qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Donc, ils sont compétents en termes de savoir sur un point précis. Et alors, ce savoir-là, ils vont souvent l'étaler, ils vont souvent répéter la même chose. Au cours des soirées, entre amis, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ils ont un schéma comme ça de séduction où ils brillent, mais toujours avec la même chose, en fait, au final. Ils ont l'air plus intelligents que ce qu'ils ne sont. Ce qui veut dire que, pour eux, les autres, ce ne sont pas vraiment des autres. Ce sont des faire-valoir à l'ego, mais ce sont presque des objets qui vont pouvoir s'amuser, en fait, à détruire. C'est des jouets à détruire. Cette empathie-là humaine, elle n'existe pas tellement. Ou tu me sers à ne pas décompenser, donc je vais te détruire, ou tu dois m'adorer. C'est adore-moi ou n'existe pas. Et même si ces prédateurs moraux arrivent à détruire moralement leurs victimes, c'est pas satisfaisant pour eux. À aucun moment, il y a une issue pour que le pervers narcissique se sente bien et se sente comblé. Puisque le problème, en réalité, c'est pas les autres, c'est lui le problème. Donc, peu importe ce qu'il fait aux autres, ça lui permet effectivement de compenser ou d'éviter de décompenser, mais ça ne lui permet pas d'aller mieux. Et ce sont des personnes qui, du coup, vont aussi, au-delà des victimes, bannir, ni plus ni moins, les personnes qui ne pensent pas comme eux, qui ne sont pas dans leur courant de pensée ou qui ne trouvent pas grâce à leurs yeux. C'est-à-dire que, par exemple, un pervers narcissique, s'il a un problème avec quelqu'un qu'il n'aime pas, plutôt que de l'éviter, il ira plus facilement voir quelqu'un qui les connaît tous les deux en commun pour lui dire « mais lui, tu devrais jamais lui parler », etc. Alors que l'autre n'a rien demandé et que la relation n'était pas parasitaire. Il va essayer de punir en réalité toutes les personnes qui ne le trouvent pas assez brillant, qui ne nourrissent pas en fait son narcissisme ou pire, qui ont osé les contredire. Et là, quand je vous prends l'exemple d'aller voir une tierce personne, etc., c'est parce que ce ne sont pas des bourrins de la manipulation. Ils sont stratèges, ils sont quand même intelligents dans la stratégie. Donc les pervers narcissiques font preuve d'une manipulation qui est très subtile et qui est dure à déceler. C'est ça qui les rend si durs à repérer, parce qu'il y a quelque chose de très progressif et il y a quelque chose, mais ça on y reviendra tout à l'heure avec les victimes, de l'ordre de l'isolement, qui fait qu'on a énormément de mal à se rendre compte, franchement, au premier coup, de dire telle personne, c'est un pervers narcissique ou c'est une perverse narcissique. Pire que ça, c'est que dans cette manipulation subtile, le pervers narcissique va remplir les manques des personnes qu'il va choisir comme victime ou comme potentielle victime dans le futur. il va apporter du bien à ce moment-là. Il va apporter des choses dans la vie de l'autre en remplissant les manques et les vides. Et enfin, dans la difficulté de les repérer, c'est qu'encore une fois, tout se dévoile progressivement en huis clos, jamais à l'extérieur. Même un pervers narcissique qui est en pleine action, pas très envie d'utiliser cette formulation, mais je la trouve claire, cette action-là, elle ne sera pas vraiment perçue par les autres parce que c'est fait subtilement. Et quand c'est fait moins subtilement, c'est fait en huis clos sans que personne ne puisse assister à ça. En public, le pervers narcissique est toujours merveilleux. Et d'ailleurs, en général, on n'a rien à redire. C'est-à-dire que quand quelqu'un se fait détecter pervers narcissique, on se dit au contraire, non, mais lui, c'est pas possible parce qu'il est nickel partout. Eh bien, ça, c'est l'apanage des pervers narcissiques de cocher toutes les cases. C'est presque bizarre d'être aussi bien, au final, parce qu'on a tous nos défauts, j'ai plein de défauts, vous en avez aussi, et c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Le fait que, comme par hasard, ce soit des personnes où tout est nickel et il n'y a rien à redire, ça renforce en fait l'impossibilité de les détecter, alors qu'en réalité, ça pourrait presque être un indice. Je dis presque parce qu'on ne connaît jamais une personne à 100% et qu'il y a des personnes qui peuvent paraître très bien et qui sont très bien, encore heureux. Alors pourquoi ce mot pervers narcissique est tellement à la mode? Pourquoi on l'a entendu partout ces dernières années? C'est parce qu'il a tendance à être confondu avec quelqu'un qui est manipulateur ou quelqu'un qui est méchant simplement. Même quelqu'un qui est sadique, par exemple, c'est pas forcément un pervers narcissique qui cumule bien deux pathologies en même temps. Et puis il y a les actes qui sont très visibles en fait. Il y a le schéma du pervers narcissique, j'insiste vraiment dessus, il est subtil, il est très pervers justement parce qu'il est caché et il s'immisce dans les vies, dans l'esprit d'une personne qui va détruire complètement. Donc les conflits et les clashs habituels où j'entends parfois bah, lui il doit être pervers narcissique, etc. Ben non, pas tellement, parce que c'est pas subtil. Et c'est plus quelqu'un qu'on pourrait affubler d'un nom pas très sympa pour ce qu'il vient de faire, mais ça veut pas forcément dire qu'il est pervers narcissique. Donc le pervers narcissique, des fois je dirais le PN, vous formalisez pas, ça se dit aussi, pour qu'il existe, il lui faut forcément une proie. C'est un petit peu comme le triangle de Carpane dont je parle dans l'Antiguité de la manipulation, c'est-à-dire que y a les trois rôles, hein, victime, bourreau et sauveur. Eh bien, puisque le pervers narcissique, c'est le bourreau en puissance, pour pouvoir s'épanouir, il a forcément besoin de créer une victime. Comment il va la créer? Il va commencer par choisir une proie, et surtout, le premier temps est toujours le même, c'est une séduction. Alors, je ne parle pas forcément, encore une fois, une séduction d'un point de vue amoureux, mais c'est une séduction, on trouve la personne géniale. Et cette personne-là fait tout pour être géniale. On va la trouver extrêmement brillante, c'est quelqu'un qui va se rendre indispensable, qui va nous faire sentir important. Ça, c'est aussi essentiel, c'est-à-dire que la personne se sent importante, la victime, pas parce qu'elle est importante, parce qu'elle se dit qu'elle a de la chance que cette personne si brillante s'intéresse à elle. C'est le premier mécanisme qu'on retrouve dans tous les stratagèmes, dans toutes les stratégies des pervers narcissiques, ça commence toujours comme ça. Et c'est ce qui va lui permettre après de la paralyser. Littéralement la paralyser, on parle souvent d'une forme d'hypnose chez les pervers narcissiques. Alors, ce n'est pas de l'hypnose au sens hypnothérapie médicale du terme, mais cette fascination, elle est tellement forte que ça fait presque un état modifié de conscience où on ne pense que par cette personne, on ne ressent que par son pervers narcissique, par son bourreau, où il n'y a que cette personne-là qui compte. Parce qu'au fur et à mesure, il va lui montrer à quel point il est la seule personne importante de sa vie. C'est ce qu'on appelle la création d'une emprise. Une fois que l'emprise est créée, le PN passe à la troisième phase, l'isoler socialement, isoler sa victime socialement. Alors, ce n'est pas de la jalousie, même si ça peut y ressembler, c'est surtout que c'est plus simple de détruire une personne si elle n'est pas conseillée, en fait. S'il n'y a personne pour s'en rendre compte et pour lui dire « Attends, tu devrais faire attention, ce n'est pas normal comme comportement, ce genre de choses. » Donc, il y a ça. Il y a certes sûrement une part, c'est impossible de le quantifier, du narcissisme qui fait que il ou elle veut être la seule personne qui existe et qui est admirée, mais quoi qu'il arrive, c'est surtout pour détruire plus facilement la psychologie de cette personne. Et il y a deux manières d'isoler socialement. Isoler, ça ne veut pas forcément dire mettre la personne toute seule dans une pièce sans amis. Ça, c'est l'une des deux manières. La première manière, c'est d'isoler au sens littéral, c'est-à-dire de dire « tes amis, je ne veux plus les voir parce qu'ils sont comme ci, comme ça, tu ne te rends pas compte, ils sont comme ça, en plus, ils disent de mal de toi. » Là, tous les moyens sont bons pour isoler la personne, souvent en bloquant des relations ou en amenant la personne à ne plus vouloir elle aussi ses relations, par exemple en faisant preuve de mensonge. Tu te rends pas compte, hein, mais machin quand même, bah, il est super jaloux de toi, il dit du mal de toi, il critique, etc. Ce qui va isoler complètement la personne, donc elle n'aura plus de contact, donc plus de conseils possibles. La deuxième manière, qui n'est pas antinomique, hein, les deux peuvent être faites en même temps, c'est au contraire de séduire les autres. De séduire les autres, que tout le monde le trouve gentil, brillant, attentionné, etc., etc., intelligent, nickel en tout point, pour ensuite se les mettre dans la poche et ensuite, du coup, créer les conflits. Il peut, ces personnes qu'il a mis dans sa poche, leur faire penser du mal de la victime, plutôt que de faire à la victime penser du mal des autres. Dans tous les cas, c'est un phénomène de conflit. Vient ensuite la pire des phases, la plus longue, la quatrième phase où le PN va disqualifier la personne, va la désinformer, va la critiquer, va la rabaisser, va la détruire en permanence. Son but est extrêmement simple, la rendre le plus minable possible, mais pas en lui démontrant qu'elle est minable, en lui faisant sentir qu'elle est minable, en lui faisant comprendre elle-même qu'elle est minable. C'est-à-dire que la personne est persuadée que tout ce qui est dit est vrai. Et c'est là où le mot pervers prend son sens. C'est la personne qui va comprendre, au final, qu'elle ne vaut rien, qu'elle est minable, qu'elle n'est jamais assez bien, qu'elle ne fait jamais assez la bonne chose, qu'elle n'est pas capable de toute manière, puisque c'est des mots qui vont être utilisés par le pervers narcissique et qui vont s'inscrire dans son propre schéma de pensée vis-à-vis d'elle-même. Alors après, ça peut aller très loin sur la manipulation jusqu'à l'agression complète, parce que cette agression, physique ou pire, va être justifiée par des phrases « tu vois ce que tu m'obliges à faire, tout ça c'est bien à cause de toi, de toute manière à part moi, qui va être proche de toi dans la vie, etc. etc. » Et si la personne se rebelle, il y a la phase supplémentaire qui, alors là, bat tous les sommets, c'est que le pervers narcissique va se faire passer pour la victime auprès de la victime. Et c'est là où il va y avoir une violence de culpabilité pour ramasser toute la culpabilité de la victime qu'elle avait déjà un peu envers elle-même, parce qu'elle n'arrive pas à se situer, puisqu'elle est détruite psychologiquement. On va lui dire « mais tout ça, c'est à cause de toi, mais tu te rends compte dans quel état je suis maintenant, t'as vu ce que tu me fais faire, ce que tu me dis, etc. Mais je sacrifie tout pour toi, etc. etc. » Donc la victime va se sentir coupable alors qu'elle essayait juste de se rebeller de quelque chose qui était logique. On va s'arrêter un petit peu sur cette notion-là de victime. La victime, ça peut être n'importe quel humain qui entoure le pervers narcissique. Il n'y a pas de catégorie spéciale. Ça peut être, je vous le disais tout à l'heure, un collègue, un membre de la famille, un conjoint, une conjointe, etc. Le pervers narcissique peut avoir plusieurs victimes, mais ce ne sera jamais au même degré. Le pervers narcissique a toujours une victime de prédilection. Et c'est là qu'il faut que vous compreniez quelque chose dont je pense qu'on ne parle pas assez quand on parle des pervers narcissiques, c'est que le pervers narcissique va devenir lui aussi dépendant de sa victime. C'est pour ça qu'il a principalement une victime, deux victimes de prédilection maximum, parce que lui, il va se nourrir un petit peu comme un vampire qui se nourrirait du sang de quelqu'un. Il va se nourrir toujours à la même source. Tout aura été mis en place, donc il a besoin de pouvoir torturer psychologiquement cette personne. Il a besoin de sentir son emprise quelque part pour lui se rassurer et pour éviter de tomber dans sa propre démence. Parce que oui, il doit nourrir le côté pervers, mais il doit aussi détruire pour pouvoir jouir de cette souffrance-là, pour que cette souffrance lui donne du plaisir. Principalement, le pervers narcissique va donc dénigrer et s'attaquer au corps, que ce soit psychologiquement ou physiquement, à l'image, que ce soit psychologiquement ou physiquement, et aux compétences de sa victime, en la rabaissant toujours sur son niveau de compétence, quel que soit le domaine. La victime ne fera jamais assez bien, ne pense jamais assez bien, ne réfléchit pas comme il faut. Les effets sur la victime. Le premier effet, qui est terrible, c'est que la victime se demande si c'est elle ou lui qui n'est pas normal. Les phrases qu'on entend souvent des personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques, c'est « je me demandais si je devenais fou, si je devenais folle, ou si c'était lui ou elle qui était fou ou folle, je ne savais plus trop ». Ça, c'est typiquement un principe de confusion qu'on retrouve justement aussi dans les états hypnotiques. Cette confusion, elle est terrible à vivre parce que la personne est même plus capable de se dire « la situation n'est pas normale ». Elle ne sait plus si ce n'est pas elle-même qui a un problème, et si toute cette situation, ce n'est pas à cause d'elle. Évidemment, dans les effets sur la victime, il y a la perte de confiance en soi, mais il y a également aussi le stress permanent, alors avec toutes les conséquences physiques aussi que ça peut avoir, hein, la perte de poids ou à l'inverse, la prise de poids, tout ce qui est néfaste vis-à-vis du stress, cette personne-là va le vivre à plein pot, H24. Le stress va engendrer par exemple le manque de sommeil qui va engendrer la mauvaise capacité de mémorisation de ces journées, etc. etc. Donc ça, on dirait des personnes qui ne sont pas attentives, donc elles risquent en plus de se prendre des scuds de leur entourage qui dit « mais t'écoutes rien, tu fais pas attention ben, ». Tout ça, c'est les désagréments liés au stress permanent qui devient presque comme un stress chronique qui est généré par le pervers narcissique. Et puis, il ne faut pas le négliger, c'est le dernier effet, hein. C'est qu'il en restera toujours un syndrome post-traumatique. On parle de personnes qui sont traumatisées, qui ont vécu quelque chose de traumatisant. Donc il y a les syndromes post-traumatiques qui sont à régler une fois que la personne n'est plus sous l'emprise du pervers narcissique. Et là, je m'arrête une seconde là-dessus. Est-ce qu'il faut aider un pervers narcissique? C'est-à-dire, imaginez, vous êtes averti par cette vidéo, vous n'êtes pas encore sous l'emprise de quelqu'un, mais vous vous rendez bien compte que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est ce qui est en train de se passer dans votre vie. Est-ce qu'il faut et est-ce qu'on peut aider un pervers narcissique? Parfois, on a envie d'aider aussi parce que les pervers narcissiques sont immatures émotionnellement parlant et c'est ça qui donne envie déjà de les protéger. C'est dans le propre de l'être humain et des personnes altruistes. Quand tu as quelqu'un qui est mature, ça te fait penser un peu à un enfant ou à un adolescent, donc tu as envie de prendre soin de la personne. Alors, le meilleur moyen de les aider, c'est de poser des limites. Mais poser des limites, ça veut dire quitter le pervers narcissique. Alors si c'est un couple, ça veut dire rompre, si c'est en amitié, ça veut dire c'est ça, si c'est professionnellement couper les ponts, enfin de toutes les manières, le mot quitter dans le sens il faut couper les ponts à 100% avec cette personne. C'est le meilleur moyen de les aider. Mais parce qu'en réalité, il n'y a pas à les aider ou pas les aider, c'est pas le problème. Le problème, ça reste toujours la victime ou les victimes. Avant de se poser la question comment on peut aider le pervers narcissique, c'est comment on ramasse les dégâts qui ont été faits sur les victimes et comment on fait en sorte que cette personne n'en fasse plus. Le pervers narcissique ne demande pas d'aide. Il n'a pas besoin d'aide puisque, de toute manière, la faute, c'est les autres. Donc, la seule question à se poser, c'est comment je peux fuir cette relation toxique. La seule chose qui va les impacter vraiment, qui va les faire réagir pour de vrai, c'est quand vous expliquez à un pervers narcissique qu'il fait mal. C'est-à-dire qu'il se comporte mal ou que ce qu'il a fait, c'est pas bien, etc. Quand vous le critiquez, quand vous remettez en question une action qu'il a pu faire, par exemple en vous dénigrant auprès de quelqu'un, alors si c'est professionnellement, par exemple, il s'attache à aller vous dénigrer à l'endroit où vous voulez postuler, par exemple, ce genre de choses. Si c'est en relation affective, eh bien, il va aller vous dénigrer auprès de votre ami ou auprès des personnes que vous pourriez rencontrer. Ça va énerver au sens fort, violent, le pervers narcissique. Ce genre de choses, ça l'obligerait en fait à se mettre en dissonance cognitive, donc c'est pas possible, ça va le faire décompenser. De la même manière, les pleurs de la victime vont l'énerver, alors que c'est lui qui détruit, c'est lui qui jouit de cette souffrance, mais si la personne pleurniche, tout en étant même d'accord avec lui, eh bien ça peut le mettre en colère. Alors, les solutions, elles ne sont pas nombreuses. On peut essayer de se protéger d'un pervers narcissique, mais ce n'est pas une solution qui dure longtemps parce que d'une manière ou d'une autre, il va finir toujours par irradier et vous serez infecté, entre guillemets, par sa présence et par ses manipulations psychologiques. C'est un petit peu comme si tu demandais à quelqu'un de lire que ses commentaires négatifs sur YouTube en lui demandant de rien ressentir. Bah, à un moment donné, les commentaires négatifs, ils vont s'immiscer dans la pensée, ils vont s'immiscer dans le moral. Et donc, ça aura un impact. Donc, on ne peut pas se protéger, en tout cas, longtemps. La vraie solution, on l'a dit, c'est fuir, partir, s'éloigner, se barrer. Et évidemment, oser en parler, oser demander de l'aide à son entourage, même des personnes avec qui on s'est fâché à cause de cette personne-là, eh bien, il faut vite renouer, reprendre contact et dire « Écoute, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on pourrait se parler, se voir, etc., en discuter ?» Il faut absolument recréer les contacts pour se faire aider à fuir. C'est jamais simple d'arrêter une relation amicale, professionnelle, amoureuse, surtout quand on est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas hésiter, certainement pas, bien au contraire, à en parler pour se faire aider et accompagner. Et commencer à entrevoir les choses différemment. Le pervers narcissique, tout ce qu'il va reprocher à une personne, c'est ce qu'il se reproche à lui-même. Il n'en a pas conscience, et gardez-vous bien de lui dire, parce que ce n'est pas son projet hein, d'entendre ça, mais s'il dit, t'as vu, tu payes jamais le resto, en plus c'est moi qui le fais, t'es pingre, t'es une pince, ben, c'est que la personne elle-même est radine. En fait, c'est lui qui a un problème avec l'argent. S'il dit qu'en permanence, tu ne fais que de mentir, c'est parce que lui ne fait que de mentir, c'est qu'il est là son problème. S'il dit tu es de mauvaise foi, c'est parce qu'il est de mauvaise foi. Donc, il va reprocher à l'autre ce qui est déjà ancré en lui parce que c'est ce qu'il sait reconnaître. On va terminer avec qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez arrêter une relation avec un pervers narcissique. Relation de quel ordre qu'elle soit. C'est certainement la partie la plus intéressante de la vidéo parce que peut-être qu'en la regardant, ça vous a fait penser à quelque chose que vous vivez vous-même, et donc le conseil vous sera utile, ou ça va vous donner une vision de personnes que vous connaissez qui se sont fait en fait complètement manipuler, détruire par des personnes comme ça très brillantes, mais en fait qui cachent une toxicité de pervers narcissique. Et ces personnes-là vont vivre des choses pas faciles. Et c'est important que vous les connaissiez pour pouvoir les aider, et surtout pour ne jamais remettre en question ce que ces personnes disent à partir de ce moment-là. Parce que malheureusement, le pervers narcissique n'a pas fini l'aventure au moment où la personne coupe la relation. Ça va se passer en 4 points. La première chose qu'il va faire, c'est que le pervers narcissique va disqualifier sa victime pour nuire à son image le plus possible. Et donc, ce qu'il faisait sur elle, il va le faire puissance 10, mais publiquement, socialement, auprès de toutes les personnes susceptibles de la connaître. Il va essayer d'empoisonner complètement le puits. Il va essayer de lui nuire dans un seul but, préserver sa propre image brillante, où tout le monde l'aime et qui nourrit son narcissisme initial. La deuxième chose, c'est qu'il va prendre à partie tout l'entourage de cette personne pour se faire passer pour la victime. Ou si c'est professionnel, il va prendre tous les collègues, si c'est familial, les amis et la famille, si c'est une relation amoureuse, tous les amis de ce couple. Donc il va se faire passer pour la victime, il va se plaindre, il va expliquer tout ce que vous lui avez fait subir, tout ce que la victime lui a fait subir, et en plus de ça, il va la traiter de fou ou de folle, et peut-être même de pervers narcissique. Il va renverser complètement la vapeur. La troisième chose, il peut la faire en plus, ou la faire si justement il n'arrive pas à bien faire les deux premières étapes. Il va chercher à briser complètement sa victime ou son ancienne victime. Alors là, tous les coups sont permis, ça peut être de l'humiliation publique, ça peut être du sabotage. Il va mettre toute son énergie, en tout cas toutes ses stratégies, pour briser complètement la victime. Et la dernière étape qu'il peut franchir, c'est tenter de s'excuser. Alors dites-vous bien que le pervers narcissique n'éprouve aucun remords et qu'aucune de ses excuses ne seront sincères. Il peut le faire dans plusieurs situations, parce que déjà, il est en manque de sa victime, parce qu'il n'a peut-être plus de référent narcissique pour le nourrir lui-même. Donc, il va appeler et puis il va essayer de réenclencher la machine, qui est une autre manière de détruire. Donc, il va dire peut-être qu'il est désolé. Il va essayer de faire réagir en fait l'autre personne, toujours en huis clos, en maîtrisant les personnes qui ont accès à cette information, en disant qu'il s'excuse, qu'il n'est rien sans cette personne, que cette personne-là, elle est formidable, que lui, il est complètement nul, qu'il est lamentable, etc., etc. Donc, il va de nouveau se victimiser, mais sans incriminer ce coup-ci la victime, pour que la victime ait de nouveau envie de le protéger, envie de l'aider, et qu'elle reparte dans le processus initial. Voilà, j'ai essayé de vous faire une vidéo assez complète sur le sujet sans qu'elle soit trop lourde, j'espère que c'était pas trop le cas, mais en même temps, je crois que c'était très important d'en parler au moins une fois en profondeur comme ça sur la chaîne pour toutes les raisons que je vous ai citées. Si vous pensez être victime d'un pervers narcissique, parlez-en à vos amis, à votre famille, etc. Parlez-en à des contacts dont vous vous seriez fâché à cause de cette personne-là. Allez vérifier les choses aussi par vous-même et recréer du lien social rapidement. Et puis si vous avez connaissance d'une personne qui a été factuellement victime d'un pervers narcissique, n'oubliez pas que le pervers ou la pervers va tout faire pour salir cette personne, pour la détruire, pour la démentir. Donc soyons toujours plus à l'écoute de la victime que du bourreau. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.